Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la voix de l'Amérique. Nous sommes en direct de Washington, dans le studio 13, avec vous ce soir. Nicolas Pinault et Morgane Guirièque. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Nicolas, bonsoir l'Afrique.
À la une ce soir, l'Ebola qui progresse inexorablement en Afrique de l'Ouest. 56 morts en deux jours et la peur se propage même au Cameroun.
J'ai écouté le journal de 20h à la télévision et on a annoncé qu'il y avait Ebola au Cameroun, dans la région du Sud. Et on a dit que c'était un virus contagieux qui sévissait en Afrique.
Au Burkina Faso, l'opposition annonce des manifestations le 23 août prochain pour protester contre l'idée d'un référendum pour modifier la constitution.
Le Burkina Faso n'a pas besoin de référendum en ce moment parce que le référendum ne constitue pas en soi une solution définitive.
Nous reviendrons aussi sur les pourparlers intermaliens. La deuxième phase commence dimanche, sans oublier les sports en fin d'émission avec Bagasikoura. Mais tout d'abord le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonsoir.
L'Ebola tue chaque jour un peu plus sur le continent. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, pour les 48 heures, on enregistre 56 décès et 128 nouveaux cas ont été enregistrés en Afrique de l'Ouest. La communauté internationale, elle, se mobilise pour venir en aide aux pays affectés. Lola Akomachri.
La CDAO a annoncé le décès à Lagos d'un de ses fonctionnaires, portant à 3 le nombre de morts au Nigeria. Diatto Abdul Koudir, 36 ans, avait été en contact avec un malade venu du Liberia. Le Kenya, centre de transit aérien avec l'Afrique de l'Ouest, est désormais classé pays à haut risque par l'OMS. Le Canada a annoncé un don à l'OMS de près de 1000 doses d'un vaccin expérimental, mais prometteur. Le pays promet une aide financière additionnelle de 185 000 $. David Nabarro, nouveau coordinateur des Nations Unies pour Ebola, aura pour défi la mobilisation des fonds et la coordination de la riposte à la pandémie. L'Allemagne a appelé ses citoyens à quitter les pays africains les plus touchés et 24 coopérants japonais ont également quitté la zone.
En Centrafrique, la fête de l'indépendance aura été plus morose de toute l'histoire du pays. Aujourd'hui, aucune manifestation officielle n'a été organisée sur l'ensemble du territoire. Au plan politique, alors que les consultations se poursuivent, l'Alliance des forces démocratiques pour la transition demande la suspension des consultations pour la formation du gouvernement afin de convaincre les entités qui refusent d'y prendre part. Écoutons Martin Ziguele, le nouveau porte-parole de la FDT.
Nous prenons acte de la nomination d'un Premier ministre et nous souhaitons que, vis-à-vis des positions qui se sont exprimés, qui refusent d'entrer au gouvernement, que la médiation internationale soit saisie et que cette médiation internationale rapproche les points de vue et que par conséquent la formation du gouvernement soit momentanément suspendue pour que toute cette difficulté soit aplanie, pour que nous ayons un gouvernement dans lequel toutes les forces vives de la nation se retrouvent.
L'armée ougandaise annonce avoir libéré 45 femmes et enfants qui étaient détenus par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Toujours selon les militaires ougandais, ces otages ont été libérés lors de 2 opérations au début août à Digba, dans le nord de la République démocratique du Congo.
Et nous restons, Morgane, en RDC, au Katanga. 3 pygmées ont été mutilés puis tués il y a une semaine par des miliciens Bakata Katanga. C'est ce qu'annonce la MONUSCO.
Pendant ce temps, à Kinshasa, libération de 8 personnes, dont un défenseur des droits de l'homme arrêté au début du mois par l'Agence nationale de renseignement. Et c'est ce qu'annonce ce mercredi La Voix des Sans-Voix. Ces personnes avaient été arrêtées suite à l'attaque du camp de Tchatchi, sans qu'aucun lien n'ait pu être établi avec les assaillants. Dolly Ibefo, directeur exécutif de cette ONG congolaise.
C'est un soulagement de voir notre collègue libéré, Honoré Kapuku, surtout qu'il était détenu au secret. Il était enlevé avec 10 autres personnes qui sont des membres de cette église, qui étaient en prière là-bas. Donc 3 ont été retenus. Parmi les 3, il y a 2 qui sont de l'armée et un autre qui on soupçonne en fait être de mèche avec des gens qui ont attaqué le Katchatchi.
Dolly Ibefo, directeur exécutif de La Voix des Sans-Voix, joint à Kinshasa.
En Libye, le Parlement s'est prononcé en faveur d'une intervention étrangère pour protéger les civils. Félix Yepa-Sizambou, il faut dire que le pays s'enfonce dans le chaos alors que les combats entre milices rivales se multiplient.
D'après l'AFP, le Parlement réuni à Tobrouk, dans l'est du pays, a adopté par 111 voix sur 124 députés une résolution appelant la communauté internationale à intervenir rapidement pour protéger les civils en Libye, notamment à Tripoli et à Benghazi. La résolution ne donne pas de détails sur cette intervention demandée par le Parlement issue des élections du 25 juin et qui s'est installée début août à Tobrouk, loin de la capitale en proie aux violences. Le pays est le théâtre depuis la mi-juillet d'affrontements meurtriers entre diverses milices à Tripoli et à Benghazi. Signe de l'anarchie qui règne dans le pays, le chef de la police de Tripoli, le colonel Mohamed Al-Swissi, a été assassiné mardi par des hommes armés et non identifiés qui ont enlevé ses deux gardes du corps. Des dizaines de milices formées d'ex-insurgés sèment la terreur dans le pays depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011.
Visite sous haute sécurité aujourd'hui à Mogadiscio. Une délégation onusienne a rencontré le président Hassan Cheikh Mohamoud en Somalie afin de soutenir le processus démocratique et l'organisation d'élections prévues en 2016. Claire Morin-Gibourg.
Les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU ont rencontré le président somalien dans l'enceinte surprotégée de l'aéroport. Ils ont discuté de la mise en place prochaine d'une commission électorale et d'une révision constitutionnelle qui doit aboutir à des élections en 2016. Depuis la chute de Siad Barre en 2011, le pays est plongé dans le chaos et la guerre civile. Les Chebabs, chassés de la capitale depuis 2011, contrôlent toujours de larges zones rurales et restent une menace pour la stabilité du pays. La délégation du Conseil de sécurité, qui s'était auparavant rendue au Soudan du Sud, a quitté Mogadiscio en fin de journée en direction de Nairobi, où elle doit rencontrer les ministres des Affaires étrangères des pays de l'IGAD, l'organisation sous-régionale est-africaine, qui assure la médiation dans le conflit sud-soudanais.
Inondations au Soudan voisin, les pluies torrentielles qui touchent le pays depuis le mois dernier ont fait 77 morts, 227 blessés. Tel est le bilan donné par le ministère de la Santé. D'après les autorités, les intempéries affectent 36 000 familles dans 15 provinces du pays, surtout celles de Khartoum, de Kassala, du Darfour Nord et du Nil Blanc.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la Maison-Blanche appelle le premier ministre sortant irakien Nouri al-Maliki à respecter le processus démocratique et à céder la place pour permettre à son successeur de rassembler le pays. Pendant ce temps, sur le terrain, Washington réfléchit à amplifier ses efforts humanitaires. Nathalie Barge.
Suivant l'exemple des États-Unis et de la Grande-Bretagne, la France a annoncé aujourd'hui l'acheminement, dans les heures qui suivent, d'armes aux Kurdes d'Irak. L'Élysée met en avant la situation catastrophique à laquelle doit faire face la population dans la région. Au plan militaire, le secrétaire américain à la défense, Chuck Hagel, avait annoncé mardi l'envoi de 130 conseillers militaires supplémentaires en Irak, à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Au plan humanitaire, Washington réfléchit à amplifier ses efforts également. Nous étudions la possibilité d'établir des couloirs, de procéder à des évacuations par voie aérienne. Nous regardons comment déplacer ces gens qui sont dans des zones dangereuses, dans les montagnes, vers des secteurs plus sûrs, a déclaré Ben Rhodes, conseiller adjoint à la sécurité nationale du président américain Barack Obama.
Et cette crise irakienne, il en sera question vendredi à Bruxelles avec une réunion d'urgence des ministres européens des Affaires étrangères. Les Européens qui évoqueront aussi la situation en Ukraine. Ce soir, le porte-parole du président ukrainien indique que Kiev se dit prêt à accepter le convoi humanitaire russe à destination de Lugansk sous certaines conditions, parmi elles que l'aide humanitaire soit distribuée par la Croix-Rouge.
Les djihadistes de l'État islamique ont pris le contrôle ce mercredi de plusieurs villages dans la province d'Alep à l'issue de combats qui ont fait près de 40 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU donne une légitimation aux organisations terroristes meurtrières comme le Hamas, accusation lancée aujourd'hui par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Après l'annonce de la création d'une commission d'enquête internationale sur Gaza, cette commission doit enquêter sur toutes les violations des lois humanitaires internationales et des droits de l'homme. Et en un peu plus d'un mois, la guerre entre Israël et le Hamas a fait près de 2000 morts côté palestinien et 67 côté israélien.
Au Caire, rendez-vous le 27 septembre pour Hosni Moubarak. C'est à cette date que sera rendu le verdict dans le procès de l'ancien président égyptien pour complicité dans le meurtre de manifestants durant la révolte de 2011. Dans un premier procès pour les mêmes faits, M. Moubarak avait été condamné à la prison à perpétuité, mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques et l'affaire rejugée.
Retour aux États-Unis, la colère ne baisse pas à Ferguson après la mort de Michael Brown, c'est dans l'État du Missouri. Le président américain est lui-même monté au créneau pour appeler la population à la retenue, comme nous l'explique Sarah Diaby.
Dans un communiqué, le président américain Barack Obama a appelé au calme suite à la mort par balle d'un adolescent noir abattu par un officier de police dans la banlieue de Saint-Louis. Il a présenté ses condoléances à la famille de la victime et a exhorté les habitants à se réconforter d'une manière qui guérit, pas d'une manière qui blesse. Depuis la mort de Michael Brown samedi dernier, la communauté noire de Ferguson a investi la rue pour que justice soit rendue. Les manifestations ont tourné à la violence avec des magasins pillés et une confrontation avec la police. Le gouverneur du Missouri, Jay Nixon, a appelé au calme mardi soir en reconnaissant par ailleurs que les résidents ont été sous le choc de ce qui ressemble à une vieille blessure à nouveau ouverte. Le St. Louis Post-Dispatch rapporte qu'un officier de police du comté de St. Louis a tiré et grièvement blessé un autre mardi soir, ce qui ne contribue pas à faire baisser l'attention. Le FBI a ouvert une enquête.
Au Brésil, coup dur avant la présidentielle à l'automne. Le candidat socialiste Eduardo Campos est mort ce mercredi dans le crash de son avion à Santos, dans l'état de São Paulo. Le Brésil a décrété 3 jours de deuil national et la présidente Dilma Rousseff a suspendu sa campagne.
Le pape François a quitté ce mercredi le Vatican direction la Corée du Sud pour une visite de 5 jours. Il s'agit de son 3e voyage depuis son élection en mars 2013, après le Brésil et le Proche-Orient, mais c'est le premier sur le continent asiatique.
Fidel Castro fête ses 88 ans, l'anniversaire de l'ancien président cubain qui a quitté le pouvoir en 2006 pour raison de santé et célébré par des concerts et des expositions à La Havane. La dernière apparition en public de Fidel Castro remonte à janvier dernier.
Voilà pour ce journal au micro, Nicolas Pineau et Morgane Guiriec en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
On reparle du virus Ebola qui crée une véritable psychose dans le monde, mais surtout en Afrique, Nicolas.
Exemple ce soir, Morgane, au Cameroun, suite à des rumeurs signalant des cas venus du Nigeria où l'Organisation mondiale de la santé enregistre au moins 10 cas d'Ebola confirmés. Pourtant, le ministre de la Santé du Cameroun a démenti, mais les nouvelles en provenance du grand voisin nigérian ne rassurent pas les Camerounais. Jean-Roger Billon nous en dit plus.
La rumeur selon laquelle des cas d'Ebola ont été détectés dans un hôpital à Douala s'est répandue comme une traînée de poudre. Marcel Frou, un étudiant de 17 ans, dit avoir eu l'information par les médias.
J'ai écouté le journal de 20h à la télévision et on a annoncé qu'il y avait Ebola au Cameroun, dans la région du sud. Et on a dit que c'était un virus contagieux qui sévissait en Afrique.
Le ministre camerounais de la Santé, André Mamafouda, affirme qu'il n'y a eu aucune victime de la fièvre hémorragique en provenance du Nigeria. Selon lui, le Cameroun a travaillé en synergie avec son voisin pour contenir la maladie depuis que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'état d'urgence mondiale. Le Cameroun a par la suite entrepris une vaste campagne de sensibilisation. Docteur Etundi Mbala du programme de vaccination a déclaré dans un entretien téléphonique à la VOA avoir exhorté les populations à changer certaines de leurs habitudes.
Nous avons des chimpanzés, nous avons des antilopes, nous avons des chauves-souris. Et il est probable que cette maladie puisse, il est très possible que cette maladie puisse se développer ici. Il faut vraiment que tous ceux qui sont en contact avec les animaux, qui manipulent les animaux, les gibiers, les chasseurs, sachent que quand on va à la forêt, trouver un animal mort, il n'est pas prudent de le ramener au village pour qu'on le consomme.
L'ONU note que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest frappe des zones géographiquement plus denses où le commerce et la liberté de mouvement rend plus facile la propagation de la maladie.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, l'Afrique peut-elle stopper le tueur Ebola? Les malades africains pourront-ils accéder aux traitements expérimentaux testés sur des patients occidentaux? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Merci de votre fidélité. Il est 18h44, temps universel, direction le Mali, dans cette émission où le pays se prépare pour la phase 2 des pourparlers d'Alger. Cette deuxième étape concerne le gouvernement malien, les groupes et les communautés du nord du pays. Elle débutera dimanche et durera jusqu'au 11 septembre prochain, Morgane.
C'est une phase cruciale car elle doit permettre l'adoption d'un accord définitif entre les Maliens. Kassim Traoré est le correspondant de La Voix de l'Amérique à Bamako. Il nous explique comment les Maliens préparent ce grand rendez-vous, comment se passent les préparatifs des pourparlers inclusifs intermaliens. Élément de réponse dans ce reportage.
Les futures négociations vont se faire sur la base de cette thématique. Il y aura des travaux en atelier et plénière. Modibo Keïta, haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif.
La première, c'était quelle sera l'organisation administrative et institutionnelle de la République du Mali. La deuxième question, alors quelles sont les mesures que nous allons prendre, dont nous conviendrons, pour améliorer la gouvernance administrative, la gouvernance politique et la gouvernance économique. Comment assurer le retour de ces personnes déplacées et réfugiées?
À Bamako, le leader du mouvement arabe MAA, la coordination du mouvement des forces patriotiques pour la résistance, la coalition du peuple de l'Azawad et des leaders de la société civile du nord du Mali ont échangé sur les thématiques comme la réconciliation, la justice et les questions humanitaires. Dans la cité des 333 saints, une concertation des communautés dénommée Une Voix pour Tombouctou réunit les communautés de cette localité. Abdraman Ben Essaouti, imam de la grande mosquée de Tombouctou.
Le message que j'ai en tout cas à faire circuler, c'est vraiment un message de paix, un message de tolérance, un message d'union, un message de retrouver entre les frères maliens qui sont entre-déchirés pendant un bon temps. Et je crois qu'il est maintenant, c'est le moment le plus opportun de sceller et de colmater toutes ces brèches et se retrouver comme une seule famille ensemble.
Deidja Ben Katra, coordinatrice de la concertation des communautés dénommée Une Voix pour Tombouctou.
Nous avons gagné un pari. Ce qui reste après est encore plus important. Ceux qui sont à Tombouctou, ceux qui sont aux alentours de Tombouctou, mais également ceux qui sont au niveau des camps de réfugiés. Et je sais qu'ensemble, nous gagnerons la bataille.
En plus des populations sur place, il y a des réfugiés qui ont pris part à ces assises de Tombouctou, comme Mohamed Ag Mohamed, dit Ben Maoundoud. Il est revenu du Burkina Faso.
Lorsque nous sommes à l'étranger, on nous dit qu'une fois qu'on est rentré seulement, ils vont nous faire des mal. Mais vraiment, ce qu'on entend à l'extérieur, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur. C'est lui qui a le travail, il n'est qu'à venir faire son travail.
À Gao, les ASUA, les MNLA et les MAA se sont réunis pour bien préparer les rendez-vous du 17 août prochain à Alger, Bamako. Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
À Ouagadougou, les déclarations de Blaise Compaoré en marge du sommet États-Unis-Afrique continuent de susciter des réactions. Lors de son passage dans la capitale américaine et au cours d'une interview avec La Voix de l'Amérique, le président burkinabé a laissé entendre qu'il faudra peut-être un référendum concernant la modification de la Constitution en vue d'un éventuel nouveau mandat pour M. Compaoré.
Oui, l'opposition burkinabé y vend debout et promet des manifestations le 23 août prochain. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou à Blassé Ouédraogo du parti Le Faso Autrement.
Pour notre peuple, l'aspiration profonde, c'est le changement, c'est l'alternance. Et pour faciliter l'arrivée de l'alternance et du changement, nous n'avons pas besoin de perdre le temps pour organiser un référendum pour modifier l'article 37. Et c'est pour cela que, en réaction donc des propos du président Compaoré, qu'il est supposé qu'il a toujours des velléités pour organiser le référendum, le peuple burkinabé va donc manifester le samedi 23 août pour que le président Compaoré comprenne qu'il n'est pas dans la bonne direction. Il faudrait qu'il soit raisonnable pour ne pas amener notre pays dans une situation difficile, voire une situation de chaos.
Alors, lui, il dit que la question sur la légalité du référendum n'est pas discutable. Qu'est-ce que vous en dites?
Non, certes. Dans la Constitution, il est prescrit que le recours au référendum est possible. Mais la question que nous lui retournons, est-ce que le référendum est-il obligatoire? Est-ce une obligation d'organiser un référendum pour modifier l'article 37? Il faut revoir l'histoire du Burkina Faso pour comprendre qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, notamment à la suite de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Et c'est simplement grâce au travail que le Conseil des sages du Burkina Faso a réussi à faire que le pays est resté dans une situation de stabilité et de paix. Le contexte actuel de notre pays n'oblige personne à entreprendre un quelconque référendum pour modifier la Constitution.
En clair, le problème, c'est le contexte, mais pas la légalité.
Non, la légalité, c'est prescrit dans la Constitution. On est tous d'accord, mais on se demande est-ce que c'est obligatoire. Parce que le Burkina Faso n'a pas besoin de référendum en ce moment, parce que le référendum ne constitue pas en soi une solution définitive. Le référendum provoque une aggravation de la fracture sociale. Et nous, au Burkina Faso, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin d'un Burkina Faso où il fait bon vivre. Mais un pays où il y a une large fracture sociale, avouez que la vie devient intenable.
Ablassé Ouédraogo, opposant burkinabé, il était joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
54e anniversaire de l'indépendance de la Centrafrique. Dans son adresse à la Nation hier soir, la présidente de transition Catherine Samba-Panza a dénoncé les fauteurs de troubles qui, selon elle, alimentent le chaos ainsi que les extrémistes partisans du projet qu'elle a qualifié de suicidaire de partition du pays.
Plus que jamais aujourd'hui, le pays est le théâtre de tueries et massacres à caractère ethnique et religieux. Alors y a-t-il vraiment des raisons de célébrer cet anniversaire? Idriss Fall a joint le professeur Bobossi Seringbe Gustave, recteur de l'université de Bangui.
Mais déjà, l'RC est un pays qui existe sur la carte et qui existe aussi sur le plan juridique. On ne peut pas effacer son histoire. C'est le 13 août que la RCA a accédé à l'indépendance. Donc pour moi, la journée, historiquement, vaut le coup d'être fêtée.
Tout le monde se réfère au premier président, Boganda. Mais aujourd'hui, l'unité elle-même est malmenée, pas avec des velléités de partition.
La République centrafricaine, telle que Boganda l'a conçue, n'a pas survécu totalement à ce que Boganda voulait. Pour preuve, la République centrafricaine ne se limitait pas qu'au seul territoire de Lubangui-Chari. Boganda voyait déjà toute l'Afrique centrale. Les autres sous-pays de la sous-région n'ont pas accepté et Boganda n'a pas pu participer à l'indépendance de la RCA. Il est mort avant. Aujourd'hui, la République centrafricaine doit se battre plutôt pour arriver un jour à idéaliser ce que Boganda a planifié pour ce pays. Et en ce moment, la République centrafricaine connaît une période très, très, très difficile. C'est une rude épreuve, mais concrètement, la nation centrafricaine n'est pas pour la division et la partition.
L'histoire aussi a été surtout marquée par le sang, la dictature de l'empereur Bokassa. Après, il y a eu les mutineries à répétition des soldats. Est-ce que le pays ne transporte pas tout ce passé-là, qui est un peu tragique aussi?
La République centrafricaine, pratiquement depuis une trentaine d'années, connaît une histoire bouleversante. C'est bouleversé. Cela a été initié par les hommes politiques. Ils n'ont pas su se mettre au service de leur peuple. Pendant 30 ans, il y a eu une politique d'exclusion des uns et des autres. La dictature militaire, la dictature impériale de Bokassa, tout cela a créé des foyers de révolte. D'abord, révolte au sein de l'armée, puisque les militaires ont voulu renverser Bokassa. Ils n'ont pas pu. La population s'est révoltée jusqu'à ce que les élèves se mettent devant la scène. Et sous le régime qui a succédé, c'est la politique d'exclusion, de tribalisme. Et tout cela a provoqué la révolte et la division au sein de l'armée, au sein de la population. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est que les conséquences d'une vision politique qui a échoué et qui a créé ces malaises. Ce que nous vivons aujourd'hui, le comble, c'est-à-dire la lutte fratricide des assassinats, pratiquement l'État centrafricain est en péril.
Le professeur Bobossi Seringbe Gustave, recteur de l'Université de Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Dans les
On passe au sport dans cette émission. Nous accueillons Bagassi Koua. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et on parle football, hein. Nouvelle retraite internationale. Cette fois, c'est en France et c'est Franck Ribéry.
Oui, après Didier Drogba, donc en Côte d'Ivoire, Ribéry a fait ses adieux à l'équipe de France dans un entretien accordé au magazine allemand Kicker. À 31 ans, l'attaquant du Bayern Munich tire donc un trait sur sa carrière internationale après 81 sélections durant lesquelles il a marqué donc 16 buts. Le 6 juin, il avait quitté le camp de regroupement de l'équipe de France à Clairefontaine, près de Paris, quelques heures seulement après avoir dû renoncer à la Coupe du Monde au Brésil, le troisième du Ballon d'Or et élu meilleur joueur de l'année par l'UEFA en 2013. Ribéry était la pièce maîtresse des Bleus depuis le départ à la retraite d'un certain Zinedine Zidane en 2006.
Allez, on reparle du virus Ebola même sur les terrains de sport. Cette fois-ci, la Confédération africaine de football a réagi.
Oui, la dernière phase des éliminatoires, Nicolas, vous le savez, de la CAN 2015 doit débuter le mois prochain. Et la CAF a donc décidé que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les trois pays les plus touchés, joueraient leur rencontre des éliminatoires de la CAN 2015 sur terrain neutre. Pour la Sierra Leone, pour donc le match Sierra Leone RDC du 10 septembre, comptant pour le dernier tour des éliminatoires donc de cette CAN 2015, la fédération sierra léonaise a déjà contacté les Ghanéens pour voir s'ils peuvent les recevoir.
Football, rubrique transfert.
Alors, c'est le défenseur et capitaine belge de Manchester City, Vincent Kompany, qu'on a vu au Mondial, qui a prolongé donc chez les champions d'Angleterre jusqu'en juin 2019. C'est ce qu'a annoncé le club manichéen ce mercredi. Kompany avait rejoint City en provenance de Hambourg en Allemagne en 2008 avant d'être nommé capitaine en 2011.
Et direction Marrakech pour parler du championnat d'Afrique d'athlétisme, Bagassi.
Oui, et lors de la troisième journée du 19e championnat d'Afrique d'athlétisme, trois pays ont tiré leur épingle du jeu. Il s'agit du Botswana, du Kenya et du Nigeria. Le Kenya d'abord qui a monopolisé le podium du 3000 mètres steeple grâce à Kipchoge Biresh, 8 minutes 34 secondes 79. Vous secouez votre tête, Nicolas. Bien, vous allez prononcer ce nom pour moi?
Oui, Jonathan Mouya et Ezekiel Kemboy hein, qui complètent évidemment le podium. Il y a aussi le Botswana qui a brillé, Bagassi.
Voilà, merci de n'être pas revenu sur le premier nom. Le Botswana donc qui a signé une grosse performance aux 400 mètres et 800 mètres en décrochant la médaille d'or respectivement par Isaac Makwala et Nigel Amos. Sur le tour de piste, Isaac Makwala, détenteur du record d'Afrique, s'est imposé facilement devant le Sud-Africain Wade Van Niekerk, je ne sais pas d'où vient ce nom, et le Kenyan Boniface.
Et Bagassi, rapidement, un mot chez les dames, hein, les Nigérianes hein, qui ont brillé.
Oui, les Nigérianes ont remporté 4 médailles d'or aux 400 mètres à la longueur, au disque et au relais, 4 fois 100 mètres.
Voilà, c'était Bagassi Koua pour les sports ce soir sur La Voix de l'Amérique.
Allez, on termine en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Les artistes guinéens se mobilisent pour une campagne de sensibilisation contre les virus Ebola et pour marquer leur soutien à la population guinéenne. Une production de Machala Studio et Mers Libre Prod. La chanson est chantée par 23 artistes guinéens et étrangers. On écoute Un geste pour la vie.
Voilà, Voilà, c'est sur ces notes de musique que va s'achever notre émission. Je salue les fidèles du monde aujourd'hui qui nous suivent un peu partout en Afrique, également sur internet, le www.lavoixdelamérique.com ou sur notre page Facebook. Nicolas Pineau et
Morgan Guiriec
étaient avec vous ce soir dans ce studio. Merci de votre fidélité à nos programmes. Dans quelques instants, vous retrouverez le reste de l'actualité. Ce sera à 19h temps universel avec Jean-Roger Billon. Puis ce sera en rediffusion le magazine Religion avec Idrissa Seydoudia. Excellente soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
La douleur de perdre un être cher sans pouvoir le toucher, celle d'un ami malade sans pouvoir l'embrasser.